Oui, bonsoir Daniel, c'est Laurent de Nantes. Nous sommes actuellement avec les étudiants en train d'occuper la gare de Nantes. Donc actuellement, nous sommes à peu près 2000 à occuper les voies de la gare SNCF de Nantes. Donc tu as pu entendre les... Là, on se dirige vers l'aiguillage exactement de la gare de Nantes.
Oui, je viens d'écouter le flash d'info là, sur Inter à 18h, les déclarations de Villepin. Les jeunes se font manipuler, etc., etc. Ils me donnent envie de vomir, mais alors, quelque chose de bien. Hein. Qu'est-ce qu'il en sait des jeunes hein? Les jeunes, j'en ai trois à la maison. Une de 24 ans, bac plus 6, qui a juste un contrat de professionnalisation, 90% du SMIG. On n'est pas sûr de la garder au bout d'un an. Un pas fou qui s'est arrêté à bac plus 2, qui est intérimaire. La dernière, qui passe son bac au mois de juin. Qu'est-ce que je vais en faire, moi, de ces gamins-là? Ça fait 14 ans que je me bats toute seule pour les élever. Et qu'on ne me parle pas de la précarité, parce que la précarité, je la connais. Hein. 9 ans dans la fonction publique avant d'être titularisée. Alors, je sais pas, moi, je sais pas ce qu'on peut faire. Oui, se réveiller. Qu'est-ce qu'on attend? Mais qu'est-ce qu'on attend? Je le disais en rigolant, mais là, je le dis plus du tout en rigolant. Il sera peut-être temps qu'on ressorte les cocktails Molotov et que, je sais pas, qu'on refasse un bon mai 68. Hein. Mais, je sais pas, réveillez-vous, faites quelque chose. J'ai l'impression que tout le monde s'endort. Oui, bah c'est mieux que rien quand on a un boulot à 1 000 euros par mois. Non, il y a peut-être quelque chose à faire parce que, je sais pas, moi, les gamins, qu'est-ce qu'on leur prépare comme avenir? Qu'est-ce qu'on leur prépare? Ah, je suis partagée entre la nausée et la colère. Je sais plus quoi faire.
Salut Mermé, c'est Emmanuel de Toulouse. Je te téléphone parce que là, je rentre d'une manif où je suis allé apporter ma contribution de modeste chômeur de longue durée, où des étudiants en Toulouse procèdent à des barrages intempestifs sur les boulevards. Et donc bloquent les automobilistes qui leur répondent à coups de klaxons, d'insultes. Et t'as qu'à aller bosser au lieu de manifester. Voilà, je te le fais avec l'accent. Donc tout ça pour dire que c'est pas gagné, quoi, parce que en face il y a quand même de sacrés blaireaux. Donc dans un pays où nous dit-on les gens passent le plus clair de leur temps à regarder TF1, je pense que le jour de gloire est peut-être pas pour demain, quoi. Ça va être dur. Ciao.
Oui, bonjour. Bah, ici, c'est les étudiants mobilisés de l'Arsenal à Toulouse. Donc, on vient de passer la nuit dans l'IEP. On est environ 70 et on voulait témoigner parce que l'Arsenal, c'est une des 2-3 facs qui a pas voté la grève en mai 68. Et aujourd'hui, elle est occupée, elle est bloquée. Et donc, voilà, la mobilisation continue. On s'arrêtera pas avant le retrait du CPE. Je vais vous faire entendre un petit peu les gens qui sont autour de nous. Allez. Voilà, on est motivé, on n'a pas dormi de la nuit et pour autant on continuera. Il y a une assemblée générale aujourd'hui, on ne s'arrêtera pas. On continuera jusqu'au retrait du CPE. Voilà, merci Daniel.
Le CPE, bien sûr le CPE, encore une mesurette qui émiette un peu plus le droit du travail. Il y a eu le CNE, mais dans tout cela, il faut y voir un projet, un programme global de restauration dans l'extrême libéralisme. Au fond, ce n'est pas un néolibéralisme, c'est une restauration tout simplement. Le libéralisme ne fait pas d'autocritique en tant qu'il se remettrait en cause et donnerait naissance à autre chose. C'est une idéologie obtuse contre laquelle nous devons combattre. Idéologie fermée, affirmée et réaffirmée au nom d'une soi-disant conjoncture économique. Aux étudiants, je veux leur dire ceci. Leur combat contre le CPE, c'est un combat contre une société que l'on nous propose. Une société ultralibérale. Comme les jeunes des cités ghettoisées qui se sont frottés à ce même libéralisme il y a 4 mois. On nous dit que le CPE ne concerne pas les étudiants, bien sûr, mais les jeunes en situation précaire. Parlons-en de ces jeunes en situation précaire. Noirs, maghrébins, jeunes des cités de façon globale, précarisés par des mesures et des réactions stigmatisantes. Avec le CPE, c'est leur avenir qu'on remet en cause, c'est leur précarité qu'on accentue. 2 ans pour savoir si ces nègres ou ces bougnoules peuvent être des travailleurs soumis, comme leurs parents il y a 30 ans. 2 ans pour savoir effectivement s'ils portent en eux les gènes de l'humanité et de la soumission au capital. 2 ans de test. 2 ans dans l'incertitude, jeune de banlieue, étudiant, c'est le même combat, celui d'un changement radical de la société et d'une vision autre. Merci.
Quand je vois ce dont ce gouvernement est capable, je me dis qu'on a autant raison de leur faire confiance qu'à un opérateur de téléphonie mobile. C'est pour dire.
À l'écoute de votre émission d'aujourd'hui sur les chip breakers, je ne peux m'empêcher de revoir les magasins de souvenirs de Dakar. On retrouve tous les appareils de contrôle en cuivre, manomètre, compas, lock, répétiteur d'allure, sextant, même des cornes, des cloches de brume que l'on dirait venues directement d'un roman de Conrad ou du film La canonnière du Yangtze. Sauf que là, ils ont été parfaitement nettoyés, astiqués, ça brille de tous les côtés. Et tout ça se vend pour quelques dizaines de dollars aux visiteurs, je dirais pas touristes à Dakar, aux visiteurs occidentaux, et qui les ramènent en Europe, presque sur les lieux de la fabrication, souvent Manchester, Odessa, Boston, encore gravés sur le bronze. Étrange retour des choses, n'est-ce pas? Au revoir.
Le reportage que je viens d'entendre sur les chantiers de désamiantage des navires m'a inspiré quelques réflexions que certains auditeurs ont peut-être eues aussi. Rien n'arrête le capitalisme. Nous savons ici qu'il faut bien se protéger sous peine, comme beaucoup de travailleurs l'ont déjà testé, tomber gravement malade. Mais là-bas, on ne le leur dit pas et bien sûr, on ne les protège pas. D'autre part, il est remarquable que pour avoir un travail, les travailleurs là-bas acceptent n'importe quel salaire et n'importe quelles conditions de travail. S'ils n'y prennent garde, nos jeunes seront soumis aux mêmes lois avec le CNE. Tout accepté, pourvu qu'on ait un boulot. Jamais la formule de Marx, prolétaire de tous les pays, unissez-vous, n'a été autant d'actualité. Oui, il est indispensable de s'unir pour se protéger mutuellement. Sinon, nous risquons d'être jetés les uns contre les autres au nom de la concurrence libre et non faussée. Ça a déjà existé par le passé, alors soyons vigilants.
Comme une bouteille de bière à la mer. Suis-je donc seule dans cet univers? Ce microcosme qui va vite, cette ville qui palpite. Y en a-t-il à Colombes, des fans de là-bas si j'y suis, qui aimeraient refaire le monde en discutant autour d'un lit? Qui voudraient bien, un soir au coin, boire une bière et partager sur l'émission qui vient de passer? Alors moi, comme une bouteille de bière à la mer, je vais aller m'asseoir au bar, jeudi soir au prochain, pour voir si quelques-uns émergeront de leur tanière pour avec moi monter un repère. Ce sera au bar Le Cadran, à la gare de Colombes, en sortant. Rendez-vous jeudi 16 à 7h, 7h30, au numéro 5 de la rue Saint-Denis. C'était Caroline de Colombes.
Voilà, merci Caroline de Colombes. Bon, je traduis ce qu'elle vient de nous dire, cette auditrice. Ce sera donc au Cadran, un bistrot qui est à la gare de Colombes. Colombes, c'est dans la banlieue parisienne. 5 rue Saint-Denis et le rendez-vous pour créer un repère des amis de la base, si j'y suis. Ce sera donc jeudi à demain, donc à 19h30. Aujourd'hui, ben voilà, on continue le voyage en Inde. Bien vu l'auditeur, hein, Dakar, c'est exactement ça là, c'est au Bangladesh. Et ben c'est par là qu'on va, à Chittagong, on va à Dakar, toujours avec la question de savoir comment meurent les bateaux et qui coud ma chemise. Là, c'est pas encore les chemises, c'est pas encore la confection, mais c'est les navires. On était à Lang en Inde et là, on va à Chittagong, ces immenses chantiers où l'on démolit et où l'on recycle les navires, et où donc, tandis que tout le monde attendait le Clémenceau à Lang, en principe, le France, rebaptisé Norway, devait arriver. Il ne viendra pas, mais pas pour l'instant, vous allez en savoir plus dans 7 heures, et surtout, comment meurent les bateaux. Mais aujourd'hui, je dois dire qu'on est plutôt tous assez retournés, assez bouleversés, parce qu'on a appris ce matin la mort de notre ami Philippe Labrousse, qui est une des grandes figures de France Inter. Vous entendiez souvent son nom, Philippe Labrousse. Il était réalisateur ici à France Inter. Il a été l'un des réalisateurs de La Basse, si j'y suis, il y a bien des années. Et c'est un jour assez noir pour nous, parce que c'est un bout de la famille France Inter qui est parti. Le temps des hommages et des nécros viendra, mais je voudrais dire que la mort va si mal avec les images qui nous viennent quand on songe à lui qu'on ne croit pas qu'il soit disparu. Voilà, d'autres messages sur le répondeur de La Basse,
Bonsoir. Bonsoir, monsieur Mermet. C'est les enseignants du collège Le Bas à Roubaix qui vous appellent au cœur de la nuit. Au cœur de la nuit, pourquoi ? Parce qu'on a décidé d'occuper les locaux de notre collège. Les parents d'élèves ont décidé d'une opération collège vide du 6 février jusqu'au 10 mars, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'élèves. Et tout ça pour râler contre les suppressions de postes dont nous serons victimes à la rentrée. Et évidemment, on aura beaucoup plus d'élèves par classe, plein de projets qui vont tomber à l'eau, et on s'étonne un petit peu des mots d'ordre du ministère, ambition réussite, ça doit être sans doute ambition réussir avec moins de moyens, voilà. Donc ce soir, on fait dodo au collège. Bonjour à tous les auditeurs, au revoir.
J'écoutais hier soir ton émission, c'était donc mardi soir, sur les chantiers au Pakistan ou au Bangladesh. Moi, j'étais officier de la marine marchande, donc je sais ce qu'il y a sur les bateaux, ou en tout cas, j'imagine, il y a du PCB dans les transfos, un truc polluant, il y a de l'amiante, bien sûr, autour des tuyauteries, il y a toute l'huile des moteurs, 5000 litres pour un moteur diesel, il y a encore plein d'autres produits de traitement et de saloperies diverses, et puis, alors, ce qui est rigolo, quand même, c'est que quand je t'écoutais, ben, j'emmenais ma voiture à la casse. Et pour mettre une voiture à la casse, maintenant, il faut payer entre 1000 et 2000 euros de dépollution pour enlever toutes les saloperies qu'il y a dans la voiture. Donc l'huile du moteur, le plastique du tableau de bord, etc. Et je me disais, tes énormes bateaux là qu'on casse au Bangladesh, ça coûte combien dépollution, ça ? Et est-ce que c'est vraiment bien dépollué comme nos petites voitures européennes ? Alors ça, c'est vraiment un gros problème qui est payé par toute la planète. Et puis qui rapporte du fric, effectivement, à quelques personnes sur place. Allez, Kenavo.
Alors, c'est par un beau soleil aujourd'hui sur les bords de la Rance, où vraiment c'est un paysage magnifique aujourd'hui. Et on se dit, vraiment, des jours comme ça, on se dit que la vie est belle et qu'on a envie que ça continue. Voilà. Donc, c'est un message un peu bucolique, mais c'est un message pour annoncer le repère, le rendez-vous du 28 mars au Penalty, toujours à Ploubalet, chez Marie et Pierrot.
Une petite info pour le repère niçois. Le repère niçois se réunit ce soir, donc mercredi 15 mars, à partir de 19h, au Bougalou Bar. Donc, venez nombreux, on boit et on mange sur place. Et on débat, bien sûr. Merci, Adèle de Nice.
Regarde la main. On n'arrive pas très bien à mesurer les proportions entre le navire et les gens. Regarde ces toutes petites formes colorées, ces toutes petites taches de couleur. Eh bien, c'est les ouvriers qui sont en train de sortir du navire, là, cette énorme masse d'acier rouillé, ce tas de rouille énorme, ce château de rouille. On voit cette ribambelle de tout petits points de couleur, toutes petites taches de couleur en ligne qui vont, qui viennent dans la vase. Il y a un peu de brume, un peu de soleil. On aperçoit les hommes aussi là sur le pont.
C'est un pétrolier.
Ça, c'est un pétrolier, ouais. Jovial du... On ne saura jamais comment il s'appelle, à part Jovial.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Guy Van Til, comment meurent les bateaux et qui coupe ma chemise.
Flight number 2, arriving from...
Ce matin, enfin, on va vers les chantiers. On est à Chittagong et on a quitté le centre de la ville et on va vers la côte où se trouvent ces chantiers de shipbreaking. Mais tout au long de la route que nous suivons là pour l'instant, de chaque côté, on vend tout ce qui vient des bateaux. Tout ce qui provient des bateaux, c'est-à-dire aussi bien des meubles, des éviers, des chauffe-eau, des compresseurs, des machines-outils, des tissus...
Des câbles,
des tuyaux de chaudière,
des tubulures, des tours, un métaux, beaucoup, beaucoup de bois. Il n'y a pas un centimètre, un millimètre de ces bateaux qui ne soient récupérés. Des bateaux qui font 100, 200, 300 mètres de long parfois. Je pense au France, au Norway, qui ne viendra pas ici. On en reparlera. Mais voilà, de chaque côté de cette route interminable, on trouve des commerces, des activités autour de ça. Et là-bas, on vend des bouées. On vend des chaînes de sauvetage avec le nom des navires, avec l'origine des bateaux. Je ne sais pas très bien à quoi ça peut servir ici, mais enfin, tout sert, on trouve, à recycler chaque pièce, chaque centimètre des navires qui sont détruits ici.
Monsieur Michelin doit faire croire qu'il ne fabrique des pneus que pour donner du travail à des ouvriers qui, sinon, mourraient sans lui. C'est une phrase écrite par Paul Nizan il y a plus de 60 ans dans un livre qui s'intitulait « Les chiens de garde ». Les chiens de garde, à l'époque, pour Nizan, c'était les intellectuels qui trahissait déjà les classes ouvrières et populaires. Cette phrase semble belle, mais assez désuète aujourd'hui, évoquant des mondes abolis pour certains. On va la voir en acte, cette phrase, on va la voir en chair et en os, ici où nous sommes, au Bangladesh. Au Bangladesh, on vient d'arriver, on est à Chittagong. La capitale du Bangladesh, c'est Dhaka. Et là, on est à Chittagong, qui est l'un des ports essentiels du Bangladesh. Le Bangladesh, c'est entre le quart et le tiers de la France, comme surface, pour 140 millions environ d'habitants. Haute tension, pression, énergie, activité... La ville a l'air d'être prise pour une espèce de révolution industrieuse permanente. Ça bosse dans tous les coins, ça court dans tous les coins. Pression, circulation, pollution, évidemment. Et là, on va essayer de voir, enfin, puisque ça n'a pas marché à Alang, en Inde, on va essayer de voir l'un de ces chantiers, ces fameux chantiers, où l'on détruit ces navires. Des auditeurs sur leur répondeur de la basse du Sud disent « Mais attendez, vous êtes allé en Inde et vous n'avez pas parlé du miracle indien. » C'est vrai que tous ces temps derniers, on a entendu les soupirs énamourés jusqu'à l'orgasme de nos militants du néolibéralisme parlant du miracle indien lors du voyage du président de la République, puis du voyage en Inde de George W. Bush. Et bien sûr, les missionnaires de la mondialisation laissent entendre que ce miracle indien va profiter à tous. La théorie libérale affirme que l'enrichissement de l'élite irrigue, grâce aux investissements, l'ensemble de la pyramide sociale. Eh bien, ce serait vrai si l'élite investissait. Or, aujourd'hui, l'élite n'investit pas, elle spécule. Elle s'enrichit et l'enrichissement d'une minorité se fait sur l'exploitation d'une majorité. C'est ce qui se passe en Inde avec une classe moyenne qui effectivement s'enrichit, se développe pas en nombre, mais en enrichissement, au détriment d'une la large majorité de ce pays qui reste en dessous du seuil de pauvreté. C'est la même chose au Bangladesh, en pire si c'est possible, et c'est ce que nous allons vérifier sur ce découvrir aussi sur l'un de ces chantiers où nous allons par ce beau matin à Chittagong. C'est là-bas si j'y suis, c'est sur France Inter et c'est jusqu'à 18h.
Mais c'est comme on lit, brasse la galette. मिसेस को बोलिए ब्रश नहीं लगाने का
चौंक गए
और नहीं तो क्या
बिना ब्रश के व्हाइट हो तो टाइड हो
इस बस का इंतजार किया तुमने बच्चा
जहां छुपना चाहे छुप जाए खालसा
किसका खून देखना चाहोगी तुम
अपने शोहर का या अपनी औलाद का
क्या है मिशन कश्मीर कल शाम 5 बजे सिर्फ मैक्स पर
दिस इज ब्रेकिंग सराउंडिंग यू
J'ai jamais vu un paysage pareil. J'ai jamais vu un paysage pareil. J'ai jamais vu ça. Il y a des navires. Un immense navire qui s'appelle Jovial Du. Après, je ne veux pas savoir la suite parce qu'il y a toute une partie du navire qui est effondrée et qui est posée sur le sable, qui est vraiment... Et derrière, un autre navire et ainsi de suite. Dans la brume, comme ça, des silhouettes de navires. Si je regarde en face de moi, je vois... Un morceau de navire, là-bas, 1, 2, 3, 4, des bouts de bateaux, des bouts de navires, des bouts de cargo, des bouts probablement de pétroliers.
Ouais, ça c'est la poupe d'un bateau, quoi. Il ne reste plus que le cul du bateau en fait.
Et tout ça, ça fait devant nous des tas de ferrailles, un immense tas de ferrailles, immense tas de ferrailles. Et si on s'approche un peu de la rambarde là, on voit les ouvriers qui sont en train de bosser. Il y a beaucoup de monde, hein, beaucoup de monde, beaucoup d'ouvriers dans tous les sens. Tout est fait ici, à la main. Il y a une grue, là, quand même. Il y a une grue.
Une pelleteuse, là-bas.
Une pelleteuse, là-bas. Très, très peu de matériel mécanique. Pour tout ça, pour l'instant, on n'a vu qu'une seule grue. C'est immense, 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 immense.
Enfin, on a réussi à entrer dans l'un de ces chantiers. La surveillance est moins féroce au Bangladesh qu'en Inde, qu'à Lang. Et grâce à un ami journaliste très futé, très malin, on a réussi à rentrer dans l'un de ces chantiers, l'un des plus importants de la côte de Chittagong. C'est exactement Chittakundu où nous sommes et où, vous avez compris, on démantèle et on recycle les navires. C'est une activité qui est assez ancienne déjà. Ça a commencé là. Ça a commencé à Chittagong même. Le Bangladesh, est connu, c'est synonyme de cyclone, de raz-de-marée. Et c'est justement lors d'un raz-de-marée, dans les années 80, qu'un navire s'est trouvé précipité sur les plages, sur l'une des plages. Un énorme pétrolier s'est trouvé là, tout d'un coup, échoué sur la plage. Les propriétaires, les armateurs n'avaient pas du tout envie de le récupérer. Et donc le navire est resté là et les paysans, les pêcheurs surtout, ne savaient pas trop quoi en faire. Alors ils ont commencé à prendre ce qu'il y avait dedans et puis peu à peu à le dépecer avec des scies, avec des chalumeaux et puis à vendre, à récupérer l'acier, les métaux et puis c'est ainsi qu'est née cette activité, cette industrie. On peut parler véritablement d'une industrie parce qu'on évalue aujourd'hui à environ 100 000 le nombre d'ouvriers qui travaillent sur ces chantiers. Alors, on a été reçus dans cette entreprise, on nous a mis là où on met les visiteurs, où on met les blancs, où on met ceux qui viennent de loin, et qu'on suppose tout à fait critiques vis-à-vis de l'activité. On les soigne, on les met là, et on a une vue vraiment coloniale, de colons, de gouverneurs, sur ces chantiers, sur ces centaines et centaines d'hommes qui sont en train de s'activer, à découper, à transporter, à s'activer autour de ces immenses navires. sans gants, sans casque, sans bottes, certains sont pieds nus, et manipulent des métaux, des matériaux toxiques, de l'amiante. Et c'est ce que nous allons voir d'un peu plus près avec les explications de notre ami, le journaliste Mamoun, qui, lui, a fait de nombreux reportages sur ces terrains et qui peut nous éclairer utilement.
You see, it's almost 20 kilometers coastal belt.
Il y a 20 kilomètres de côte comme ça.
More than 40 shipbreaking yards.
Plus de 40 chantiers de destruction de bateaux.
C'est ça, c'est la ressource en acier du pays. C'est-à-dire que les navires, c'est comme des mines de fer, quoi.
Yeah, because no other alternative we have.
Oui, parce qu'il y a pas d'autre alternative pour s'en procurer.
More than 80% come from the shipbreaking.
Et puis 80% vient des chantiers de déconstruction de bateaux.
Le reste est importé. Il faut savoir qu'on est dans un pays qui fait le tiers de la France à peu près comme taille, avec 140 millions d'habitants. Donc la destruction des bateaux, c'est pas seulement un business, c'est vraiment une ressource. Une ressource pour le pays.
And this go to the rerolling mill, another mill.
Et qui après est retravaillé dans des usines et refondu.
It play a vital role in our economy.
C'est vital pour notre économie.
Not only we get the iron, we also generate a huge employment here.
Parce que non seulement ça nous permet de récupérer le fer, mais aussi ça crée beaucoup d'emplois ici dans la région.
Besides that, there are many subcontracting industries growing up.
Et en plus de ça, autour de la déconstruction des bateaux, il y a énormément de sous-contractants et de petites entreprises qui travaillent autour à la périphérie.
You see, we get various type of items from the ships. Everything used in our country.
Tout ce qui est récupéré sur les bateaux est réutilisé dans notre économie, dans notre pays.
You see, nothing is wasted in this industry. Everything is used in any form.
Rien n'est gâché, en fait. Tout est réutilisé sous toutes les formes.
Like furniture, like pipe, like cylinder, tuyaux, light.
Les lumières, les lampes.
Bathroom fittings.
Tous les ustensiles de salle de bain, tout est réutilisé.
Hundred crore taka to bring one vessel from abroad.
Il faut 10 millions de taka pour faire venir un bateau.
So only richest man can do this business.
Donc c'est réservé aux riches ce business-là. C'est que eux qui peuvent se payer un bateau.
C'est que seulement les riches qui peuvent acheter un bateau.
Pendant ce temps-là, on voit un type avec un maillet là, qui est en train de taper comme un damné sur un bout de tôle que les autres attendent de charger sur les camions.
Ce qui est formidable, c'est la façon dont, voilà, dont c'est fait. C'est-à-dire que tous ces morceaux d'acier qui sont découpés et qui tombent des navires sont ensuite portés à dos d'homme. Là, on voit deux gars qui portent une pièce d'acier et qui vont le mettre dans un camion, chargent un camion de toutes ces pièces. C'est un immense, immense paysage. Hein, Et là-bas, il y a une piste, un chemin où on voit des hommes comme des fourmis qui s'éloignent et qui vont rejoindre ou qui reviennent en ce moment. Voilà, ils reviennent d'un navire qui est en ruine, qu'ils ont en grande partie déjà désossé.
Voilà le chant des porteurs de plaques. Voilà des porteurs de plaques sur ces chantiers. Alors voilà le côté des ouvriers qui n'ont absolument, vous avez compris, les conditions absolument terribles. De travail, aucune assurance, aucune garantie, aucun droit. On a voulu quand même voir un peu du côté des patrons, hein, des patrons de ces chantiers. Et on a rencontré Mujibou Rahman Milon, qui est l'heureux patron, très 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 riche patron d'une société qui s'appelle Sylvia et qui a accepté de nous parler, qui a daigné nous rencontrer et qui est précisément le patron du chantier où nous sommes, que nous avons pu visiter. Alors, moi je suis impressionné parce que vous m'avez donné votre carte. Vous êtes directeur de la banque The Oriental Bank, Takaful Islami Insurance, Capital Credit Cooperative Society,
Bangladesh Islami University Dhaka. Qu'est-ce que c'est? Tout ça, c'est le Sylvia Group.
Yeah, thank you very much.
Merci beaucoup.
The Sylvia Group company is we have many companies behind included here.
Le groupe Sylvia regroupe plein de sociétés différentes.
Mainly we have the ship buying and selling.
Principalement, c'est de l'achat et de la vente de bateaux.
We have the biggest, you know, shipbreaking yard in Bangladesh.
C'est nous qui avons le plus grand chantier de destruction de bateaux au Bangladesh.
My company is importing maybe 15 or 17 vessels in a year.
Notre société à nous, on importe de 15 à 17 bateaux par an.
This is very, in fact, very good business in Bangladesh, and this business is doing in Bangladesh because of the cheap labor.
Et ce travail marche très bien ici au Bangladesh. C'est un très bon business qui fonctionne parce que la main d'œuvre est bon marché.
There are 50 to 60, 70,000 labor working in this shipbreaking industry.
Il y a de 50 à 70 000 ouvriers qui travaillent dans cette industrie de la destruction de bateaux.
They are very poor and they are not from this place. They are very from the remote of the village.
Et ce sont des travailleurs très pauvres qui viennent pas de la région mais qui viennent des régions les zones les plus reculées du Bangladesh.
So this industry is giving a very good backup for the earning.
Donc pour eux, c'est vraiment une aide très importante pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.
Otherwise, these people could have, you know, go for begging.
Parce que sinon, ce serait des mendiants, ces gens-là. Ils pourraient très bien les mendier dans les rues.
Their family, children could have died, you know.
Et leurs enfants seraient morts de faim aussi s'ils n'avaient pas ces boulots.
C'est-à-dire que sans vous, sans votre entreprise, tous ces gens mourraient de faim.
Yeah, without this is fact.
Oui, c'est un fait.
We want to develop more industry in Bangladesh.
C'est pour ça qu'on veut développer plus d'industrie dans le Bangladesh pour trouver plus de travail pour tous ces gens.
And they have, because they don't have the, you know, family planning.
Oui, il n'y a pas de planning familial ici.
They have many children.
Ils ont énormément d'enfants.
They are just producing the children, and but they don't think about. They're really, you know, they are not educated.
Mais c'est des gens très arriérés, pas éduqués du tout. Donc il n'y a pas de planning familial. Ils ont plein d'enfants, mais ils pensent même pas à comment nourrir ces enfants en les faisant.
Voilà, ils font des enfants sans y penser.
Yeah, they're really, you know, they're not educated.
Non, ce sont pas des.
They don't have that much development.
Pas l'esprit, le cerveau très développé. Ils ont aucune éducation, c'est ça.
Voilà. So now you know this is when we are giving them the job.
Nous, on est là pour leur donner du boulot.
Even one person working, but 10 persons eating in their family.
Et une personne qui travaille pour nous, ça fait manger 10 personnes dans la famille.
Donc finalement, votre entreprise fait le bien.
Yeah, it is a good way. Sometimes we lose money in the business, but even we are continuing our business, looking to them.
Oui, parce que même c'est vrai, on est là pour faire du bien et parfois même on perd de l'argent, mais on continue quand même notre business parce que ça les aide eux.
Là, on est dans un autre campement. Sur un autre chantier, c'est le dortoir des ouvriers. Là, il y a un mot qui résume tout ce qu'on voit, c'est guenilles. Les gars sont en guenilles. Ce qu'on voit sur les cordes qui sont tendues entre les baraques, c'est des guenilles. On voit des guenilles par terre, des ordures, des guenilles dans les ordures, un coq et une poule qui picorent tout ça. Là, on entre. Et les gars qui nous regardent, évidemment, c'est très curieux. C'est très rare d'avoir des blancs qui viennent ici.
Ah là, c'est des
dortoirs.
C'est des cabanes en fait.
C'est des cabanes en bambou avec de la tôle dessus. Et les gars vivent là, mais enfin quand même ils ont réussi à se bricoler au bout d'un bout de bambou, une perche en bambou, un bout de fil de fer qui fait l'antenne de télé.
It is the drawing room, it is the bedroom, and it is the kitchen.
Voilà, la rente, c'est la salle à manger, la cuisine et la chambre à coucher.
Bah, sauf qu'une fois qu'on est tous dedans, bah, y a plus de place du tout.
4 persons stay, 4 persons sleep. 4 persons eat here and take rest here.
Dans cette petite salle, il y a 4 personnes qui font tout dans cette salle. Ils mangent, ils se couchent et ils font la cuisine.
Depuis quand vous êtes ici?
Ça fait 13 ans que je vis dans cette chambre.
13 ans. Combien vous gagnez par jour?
Je gagne 120 takas par jour.
They work in different groups, different systems. Some carter, some carrier.
Il y en a certains qui portent, certains qui découpent, certains qui tirent, certains qui déplacent. Donc ils sont payés différemment en fonction de leur poste.
Toi, tu fais
carter.
Toi, tu coupes. C'est le plus dangereux.
Oui, c'est très très dangereux.
Accident, ami hoye nai kintu amar pashe ek bhai hoyeche, ei bhai ta accident e har bhange geche, thanga ta bhange geche, dekha.
Je n'ai jamais eu un accident moi-même, mais c'est mon frère qui a eu un accident une fois.
Parmi les gens qui sont là, qui a vu des explosions?
Amon nam Babur.
Je m'appelle Babur.
Toi, tu as déjà vu des explosions?
Tela thege oto tangi thege oto bisphoron hoye eta to bashto hoye jay.
C'est à cause du pétrole qui reste dans le bateau qu'on a des explosions.
C'est-à-dire qu'il y a des gaz qui sont concentrés dans une partie, et quand tu arrives avec ton chalumeau, c'est toi qui fais l'explosion, c'est toi qui fais l'étincelle.
Moi-même, j'ai subi une explosion. Ça fait brûler mon visage, différentes parties de mon corps.
Il sort, il est pied brûlé, la peau brûlée.
J'ai dans tout mon corps, j'ai des brûlures, j'ai des coupures quand je travaillais dans le bateau.
Vous faites ça pour eux?
Yeah, to help them.
Oui, c'est pour les aider.
And I started my business, you know, thinking that is, I do the business and at the same time we help the poor people. More job.
Et ça, c'est toujours été à mon esprit. Quoi. Je fais du business, je lance des activités et en même temps, ça aide les pauvres à avoir de l'emploi.
Just to develop our country.
Pour développer notre pays, pour aider et développer les gens et notre pays.
Alors, vous avez combien d'ouvriers?
We have in our yard all together maybe about more than 1,500.
On a à peu près 1,500 travailleurs rien que sur notre chantier à nous.
And from these 1,500 laborers, at least 5,000 people eating.
Et grâce à ça, on peut faire manger plus de 5,000 personnes.
Yeah, we are giving the this level. We are giving them food. We are giving them good, you know, medical facilities.
On leur donne du travail, mais aussi on leur donne une prise en charge médicale.
We have our supervisor. They are well trained supervisor.
Il y a des superviseurs qui sont très bien entraînés, qui les encadrent.
And they guide them to the labor, so to avoid any accident.
Pour éviter à tout prix tous les accidents.
Accident is very, it was about 15-20 years, it was, rating was high accident, but nowadays it is very minimum.
Et il y a 15-20 ans de ça, par exemple, il y avait énormément d'accidents qui arrivaient. Et maintenant, grâce à ça, il y en a très très peu aujourd'hui.
Très très peu, c'est vrai, il y en a moins qu'autrefois, c'est tout est relatif. On a vu à Alang où nous étions hier en Inde, le jour même de notre passage dans ce chantier, dans lequel on n'a pas réussi à entrer, eh ben, il y a eu un navire qui a pris feu et 6-8 ouvriers sont morts. Donc les accidents, ça baisse un petit peu, mais ça baisse pas si vite que ça. Hein, je rappelle que les ouvriers dans les chantiers, qu'on a vu là, hein, qui sont sous nos yeux, travaillent sans lunettes. Hein, pour les gars qui travaillent avec des chalumeaux, pour découper. Hein, ils travaillent, très souvent, ils travaillent sans lunettes, et sans bottes, sans casque, etc. Mais vous entendez vraiment, on n'a pas connu le 19e siècle, on n'a pas connu l'époque de Dickens, des filatures de Manchester ou des mines du nord de la France. Mais aujourd'hui, on peut retourner en arrière, on peut revenir en arrière sur l'un de ces chantiers au Bangladesh.
Je m'appelle Sanwar Hossein. J'ai aidé à découper dans le bateau.
C'est dangereux, ça?
Parce qu'on travaille avec du feu, c'est dangereux. Et c'est au cas où ça tombe sur nous, on peut être complètement écrasé par la plaque.
T'as déjà vu ça? C'est déjà arrivé?
Mais il y a un incident qui s'est passé avant-hier. Oui, ça s'est passé avant-hier. Il y avait un morceau de fer qui est complètement tombé sur le ventre de quelqu'un et il est assez brûlé.
Voilà, parce que c'est du métal en fusion. Ouais. Et là, il est à l'hôpital, ton camarade, maintenant encore?
Oui, il est à l'hôpital en ce moment. Oui, il y a quand même beaucoup d'accidents dans lesquels les gens perdent leurs jambes et les gens ont des fractures assez graves.
Et on les revoit, eux, après, au boulot?
Non, ils n'ont pas pu revenir au travail, ils sont rentrés dans leur village.
Et après, comment ils font pour vivre,
alors? Si un jour ils se guérissent complètement, ils reviendront peut-être.
En fait, tu travailles tant que tu peux, tant que tu tiens debout, et puis le jour où t'arrive quelque chose, bah, tant pis pour toi.
Oui, ça sera la même chose. Je prendrai le traitement au centre médical. Si ça marche, ça marche. Sinon, je dois aussi rentrer au village.
C'est où ton village, à toi?
Oui, je viens de Bagura, c'est au nord du Bangladesh.
Et tu as beaucoup d'amis à toi qui sont venus de là-bas pour travailler aussi?
Oui, il y a beaucoup qui sont venus de la même région.
Et ta famille, ils ont dit quoi quand tu leur as dit que tu allais partir?
Mes parents ne voulaient pas que je vienne, mais quand même, je l'ai convaincu que j'allais gagner un peu d'argent pour la famille.
C'est
toujours ça, va, ça vient le business. Des fois on gagne, des fois on perd.
Yeah, it is not. We cannot say always we are earning money. This is not, you know.
Oui, on peut pas dire comme si on est tout le temps en train de garder l'argent.
We cannot stop. If we stop the business, these people they go back home.
Mais on peut pas. En même temps, on peut pas s'arrêter parce que si on arrête notre business, ces gens-là seront obligés de rentrer chez eux.
Regarde là-bas. On n'arrive pas très bien à mesurer les proportions entre le navire et les gens. Regarde ces toutes petites formes colorées, ces toutes petites taches de couleur. Eh bien, c'est les ouvriers qui sont en train de sortir du navire. Là, cette énorme masse d'acier rouillé, cet tas de rouille énorme, ce château de rouille. On voit cette ribambelle de tout petits points de couleur, toutes petites taches de couleur en ligne qui vont, qui viennent dans la vase. Il y a un peu de brume, un peu de soleil. On aperçoit les hommes aussi là sur le pont.
Ça, c'est un pétrolier.
Ouais. Jovial du... On ne saura jamais comment il s'appelle, à part Jovial.
Jovial Duckling, il s'appelle ce navire. Et il date de 1980. C'est un navire japonais. Voilà, on sait exactement combien il a été acheté. $347,000 par cette compagnie, enfin par ce shipbreaker qui est en train de le dépecer et de vendre jusqu'à la moindre poignée de porte, le moindre morceau de napperon à bord de ce navire sera vendu, recyclé. Tout ça est très bien. Recyclé, récupéré, tout ça est très bien. Mais les conditions dans lesquelles ça se fait, vous entendez cette alternance de paroles, de voix entre le patron et les ouvriers. Alors il ne sait pas très bien s'il en a 1000 ou 1500 parce qu'il en a autant qu'il veut. Il y a un réservoir de pauvreté au Bangladesh, surtout dans les états du nord du Bangladesh, qui fait qu'il suffit de claquer des doigts et les travailleurs arrivent, se précipitent, et puis quand il n'y a plus de boulot, ben on les jette, on les met dehors. Et là, bon, ben, il se trouve qu'il y a ce navire, ce petit canard jovial qui donne un peu de travail. Je disais à l'instant que parler avec cet homme et regarder ses conditions de travail, c'était revenir au 19e siècle. Ça nous fait penser à toutes les luttes, les bagarres qu'il a fallu pour que nous obtenions des droits, pour qu'il y ait un droit du travail, pour obtenir des réductions des temps de travail, des travails de nuit, travail des enfants, etc., etc. Ça a été un siècle et demi de luttes qui sont compromises aujourd'hui par la politique néolibérale. C'est très très clair. Aujourd'hui, c'est dans les facs, c'est dans les lycées que la résistance se manifeste. Et en Inde, comme au Bangladesh, on voit ces ouvriers qui, évidemment, devant leur patron, s'écrasent et parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais quand on est avec eux, dans leur dortoir, peu à peu, la confiance vient et ils osent nous parler.
Est-ce qu'on vous a prévenu qu'il y avait de l'amiante sur ces bateaux asbestos?
Oui, on a entendu parler, mais je n'ai jamais vu.
Tu n'en as jamais vu?
Non.
Tu ne sais pas à quoi ça ressemble plutôt, c'est ça, non?
Toi, tu sais ce que c'est tu sais ce que c'est, l'amiante?
Non.
Non, je ne sais pas.
Ils ne sont pas d'accord sur ce que c'est.
Je ne sais pas.
J'ai beaucoup entendu parler, mais je n'ai jamais vu.
C'est-à-dire que tu travailles depuis 13 ans dans les bateaux, il y a de l'amiante partout. Toi, tu travailles depuis combien de temps sur les bateaux, toi qui as été brûlé
Ça fait 20-22 ans que je travaille dans le bateau.
Ça fait 20-22 ans que tu respires de l'amiante. Alors là, il nous est arrivé de rencontrer quelques ouvriers.
Et on leur a demandé s'ils savaient ce que c'était que l'amiante, par exemple. Ils ne savent pas du tout.
Nobody don't know. This is not their job. This is the supervisor and the manager.
Oui, parce que ça, ils ne savent pas. Ce n'est pas leur boulot. Quoi. C'est les superviseurs et les managers qui s'occupent de ça.
We take the asbestos, you know, take out and make a hole in the, under the mud and just bury this asbestos in the, inside the mud.
Ils enlèvent l'amiante d'abord, on fait un trou dans la boue, on met l'amiante dans la boue et puis après on recouvre.
Vous l'enterrez l'amiante, votre technique,
inside the, you know, we make a big hole.
Oui, c'est ça, on fait un grand hole. Hein. Un grand
trou. Inside the mud.
Profond, le trou est assez profond.
Very deep.
Ah.
But they know the things. They have different name of this. So when you ask asbestos, they don't know this is what is asbestos.
En fait, ils savent, ils connaissent l'amiante, mais ils ont un nom local pour ça. Donc si vous leur demandez où est-ce que vous connaissez l'amiante, eux, ils ne sauront pas.
Sometimes if you ask them, this is itchy.
Par contre, si vous leur demandez, qu'est-ce que ça vous gratte la peau?
Because they don't touch this. When it is itchy, they don't touch this.
Alors, ils disent, oui, c'est le truc qui gratte la peau, ça, on touche pas, ça, on s'approche pas.
Ah,
so they always so we take care of this nicely and take it out and grave it.
Donc, ils restent toujours à l'écart de ça et nous, on s'en occupe proprement, on l'enlève et on l'enterre dans la boue.
Vous êtes logé gratuitement ici? Ou est-ce qu'il faut que vous payiez votre cabane, votre chambre ici?
Le patron ne paye rien, c'est nous qui payons notre chambre, le bon retour, tout.
Combien coûte ta chambre ici pour un mois, par exemple?
Je paye 500 takas par mois pour cette chambre.
500 takas, c'est-à-dire une semaine de travail pour louer la chambre. Vous sortez un petit peu, vous allez en ville, vous promenez un petit peu de temps en temps?
Non, je ne me promène pas, je ne vais nulle part parce que je n'ai pas de moyens pour y aller ni de l'argent.
Qu'est-ce que vous pensez de votre travail? Quel est le travail le plus dur?
Monsieur, le boulot le plus difficile, c'est couper.
C'est la découpe. Il paraît que c'est très difficile aussi de porter les plaques d'acier comme ça, qui pèsent des tonnes.
C'est dangereux aussi. En fait, tous les boulots qui se concernent le démantèlement de bateaux sont dangereux. Il n'y a aucun boulot qui est facile. Tout est dur. Les gens qui travaillent au bureau, c'est eux qui font un travail plus facile, je pense.
Une chose aussi qui est frappante sur vos chantiers, c'est l'absence totale de technologie, c'est-à-dire que tout se fait à la main. Vous n'avez pratiquement pas de grue, pas d'instrument de levage, etc. Est-ce que c'est un choix?
Well, in fact, this is a very good question.
C'est une très bonne question que vous posez là.
Last 2 years, we are thinking to develop my yard with a crane and handling by the crane all the pieces and all these things.
Moi, ça fait 2 ans que je réfléchis à ça, à développer sur mon chantier des grues et des engins de levage pour pouvoir déplacer les.
So at the moment, I have 1,500 levers. If I use the machinery, crane and all these things, I have to use more levers.
Mais simplement, c'est comme dans la mesure où j'ai 1000 à 1500 ouvriers qui travaillent sur mon chantier, si je commence à automatiser et à mettre des machines, je suis obligé d'en licencier.
À chaque fois, ouais. Alors, ce qui est frappant aussi, c'est que les ouvriers n'ont aucune protection. Hein. Pas de casque, pas de bottes, pas de gants.
Yeah, we have earlier given this helmet and, you know, shoes. You know, just they are so poor. They go with the helmet, go home, and they don't bring the helmet.
Mais nous, ça veut dire, on a déjà donné des casques et des gants et des bottes, mais ils sont tellement pauvres et tellement démunis que quand ils vont chez eux, et ben ils laissent le casque là-bas, ils reviennent même pas avec le casque.
Ah bon? Ils le ramènent pas?
If we sometimes we try to give them to wear it, they don't wear.
Et si on leur dit de porter leur casque, parfois on les oblige à porter leur casque, ils les portent quand même pas. Ils sont vraiment trop confiants dans leur travail, quoi. Ils sont trop à l'aise dans leur travail et on est obligé de leur dire quand même il faut porter les casques.
Et concernant l'amiante, il faut quand même rappeler que 3000 personnes en France meurent chaque année de l'amiante. On estime que
d'ici à 2025, de 50 000 à 100 000 personnes en France pourraient mourir de cancer lié à l'amiante. C'est dire les risques que prennent ces ouvriers qui travaillent sur les chantiers du Bangladesh. Et puis, voilà, vous avez entendu les paroles du patron. C'est inutile de faire des commentaires quant à son procédé pour on enterre l'amiante et puis voilà. Eh bien, pas du tout. Se débarrasser de l'amiante, c'est extrêmement compliqué. C'est des techniques difficiles. Il faut utiliser des systèmes de vitrification à haute température pour s'en séparer. Et c'est pas aussi simple que ce monsieur l'entend. On les retrouvera tous demain. C'était un reportage avec Guy Van Thiel, qui s'occupait aussi de la traduction et du montage. Merci à Mamoun Abdullah du journal Protom Alos. C'est notre ami journaliste qui est particulièrement malin et qui connaît formidablement bien son sujet et son terrain. Merci à Belal de l'ONG IPSA, Young Power in Social Action, qu'on reverra dans les prochains reportages. Merci à Mujibur Rahman Milon, donc le patron. Vous avez vu que vraiment on a tout le plaisir de rencontrer ces patrons vraiment à l'ancienne, avec tout le paternalisme qui va avec. Merci à Rupam Singh et Sten Le Berrigo de l'Alliance française de Chittagong. Merci à Aboul Momen, à Babour, Chouboud, Sanwar Hossein et Hassan. Merci aussi à notre traductrice Zarine Chouduri. Il aurait fallu faire une émission entière sur Zarine. Être une femme au Bangladesh, c'est pas forcément très très facile et elle est très battante. À voir ce soir, c'est tout à fait autre chose, et ça c'est un conseil de Pascal, le Pascariello, à voir un documentaire de Brian Lepping et Norman Percy, Israël et les Arabes, une paix insaisissable. C'est sur Arte à 20h45. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission La Place où j'y suis. Et concernant cette série Comment meurent les bateaux et qui coud ma chemise, vous pouvez voir des photos de cette série de reportages sur le site labba.org. Vous pourrez voir des photos, vous pourrez voir les photos de ce chantier sur ce site. Technique aujourd'hui, Pascal Baldassari et Loïc Frapsos. C'est Antoine Chao et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission modeste et géniale. C'est Guy Van Thiel et Koyen Guyenne qui ont assuré le montage, assisté de Pascal Pascariello et Christophe Humbert. Le numéro du répondeur de la basse, si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com.
Pran pati mur palak yuribe chariya shongshar maya re panirbanda pre daud ka daud ya kore panirbanda pre daud.